Donc hier soir, j'ai donné une introduction à ces trois caractéristiques. Aujourd'hui, je vais commencer à les aborder l'une après l'autre. La première, donc, c'est la caractéristique de la souffrance. Donc lorsqu'on aborde ces aspects-là, ce n'est pas vraiment pour faire ni de la philosophie, ni simplement une sorte d'étude du bouddhisme, mais c'est vraiment quelque chose qui nous concerne. Le grand maître zen Dogen, le fondateur du zen japonais, disait: étudier le bouddhisme, c'est s'étudier soi-même. Donc c'est là que ceci a un sens, c'est parce que c'est une étude de nous-mêmes pour essayer d'approfondir et d'avoir une plus grande liberté, et non pas pour apprendre des théories ou ce que le bouddhisme dit à propos d'eux. Donc il est important de se sentir concerné, dans le fond, par ce que nous questionnons. Donc j'ai parlé hier, j'ai dit que ces caractéristiques, c'était les caractéristiques de la réalité. Je les renomme, donc la souffrance, l'impermanence et le fait qu'il n'y ait pas de moi substantiel indépendant. Donc voilà comment ceci est présenté d'une manière un peu traditionnelle et habituelle. Mais on se rend compte que dans cette formulation, il y a tout de suite un problème. Si on parle des caractéristiques de la réalité, de l'existence, souffrance, impermanence et absence de moi, d'un moi indépendant et autonome. Donc si ce sont des caractéristiques de la réalité et que la souffrance est une caractéristique de la réalité, comment est-ce que le Bouddha peut dire: je n'enseigne que la souffrance et la fin de la souffrance? Si la souffrance est une réalité, on ne peut pas la dépasser. Donc il y a déjà là, dans cette formulation, quelque chose de problématique qui nous oblige un petit peu à approfondir le sujet. Dans la tradition bouddhique, on se rend compte qu'il y a une réflexion qui doit se dérouler, qui se fait constamment pour essayer de voir où il y a des incohérences comme celle-ci. Elle est importante. Pourrait dire que pas mal de personnes pensent au XXIe siècle, peut-être d'ailleurs avant aussi, que le lot de toute existence humaine, c'est d'être conditionné, limité, etc., que c'est indépassable. Donc pour ces personnes-là, s'engager dans un chemin spirituel pour dépasser ceci n'a pas de sens. Si le bouddhisme place comme caractéristique de la réalité la souffrance, alors on ne voit pas bien comment le Bouddha peut prétendre que ce qu'il concerne uniquement, c'est la fin de la souffrance. Déjà là, donc quelque chose qui nous interpelle, qui nous interpelle directement. Est-ce que par la pratique d'un chemin spirituel, on peut entrevoir la possibilité de dépasser tout conditionnement, ou bien est-ce que finalement c'est juste pour gérer un peu les affaires courantes, pour s'en tirer le mieux possible? Donc voilà une question quand même assez importante, et on verra que la tradition plus tardive n'insistera pas autant sur la souffrance en tant que caractéristique de la réalité, mais sur la souffrance en tant que élément qu'il s'agit de connaître pour développer un chemin spirituel, comme elle est enseignée dans la première des nobles vérités. Je vous rappelle ces quatre nobles vérités: la souffrance, l'origine, la cessation de la souffrance, et puis le chemin qui mène. Donc ceci a un sens, on se rend bien compte. La souffrance ici a un sens puisque c'est un constat. On essaie de prendre conscience de notre situation et puis de voir s'il est dépassable. Mais de la mettre comme caractéristique de la réalité, là on est dans quelque chose d'autre. Ce qui est dit est très différent. C'est pour ceci que je mentionnais hier soir que la tradition plus tardive, qui n'invente pas mais qui réfléchit, pas oublier que tous les bouddhistes et les maîtres bouddhistes se sont posés les mêmes questions. Ils ont dit dans le fond la souffrance, mais enfin, caractéristique, qu'est-ce qui se passe? Ils ont approfondi les choses, ils ont quantité de réflexions et de gens extrêmement brillants qui se sont posés ces questions et qui ont formulé les choses un peu différemment. C'est pour ceci que, au lieu de dire tous les phénomènes sont insatisfaisants, comme c'est mis quelquefois dans les textes les plus anciens, tous les phénomènes sont insatisfaisants, qui voudrait dire que la réalité est par nature insatisfaisante. La formulation, c'est tous les phénomènes contaminés. Je traduis le tibétain qui dit sakche. Sakche veut dire ce qui a des taches. Dans le fond, tous les phénomènes contaminés sont insatisfaisants. Phénomènes contaminés, pas tous les phénomènes, pas tout ce qui existe. Et cette contamination, c'est justement le fait de ne pas voir les deux autres caractéristiques. Lorsqu'on est dans l'existence et qu'on ne réalise pas que les choses sont éphémères, impermanentes, et lorsqu'on croit qu'il y a un moi qui existe de manière solide et intrinsèque, cette confusion-là va amener à la souffrance. Mais s'il n'y a pas cette confusion, si on se libère de la confusion, à ce moment-là, il n'y a pas de souffrance. Donc la souffrance, comme caractéristique, elle est une caractéristique d'une existence confuse, mais pas de l'existence en soi. Si c'était l'existence en soi, à nouveau, le chemin spirituel n'aurait pas de sens. Maintenant, cette souffrance, d'après les enseignements les plus anciens, elle est à connaître. Qu'est-ce que ça veut dire, la souffrance à connaître? C'est-à-dire que d'une certaine manière, quand le Bouddha s'engage dans son chemin spirituel, dans sa quête, il naît donc en Inde, 5 siècles avant Jésus-Christ, une époque où il y a beaucoup de spéculations. Les gens, pour réfléchir, n'ont pas attendu le 21e siècle, peut-être un peu l'inverse, on oublie peut-être de réfléchir. Mais à l'époque du Bouddha, il y avait beaucoup de spéculations, il y avait beaucoup de quêtes spirituelles, il y avait vraiment des systèmes immenses. On pense qu'avec le développement économique à cette époque-là en Inde, 5 siècles avant Jésus-Christ, et aussi avec le transport fluvial des marchandises, se sont développées des petites cités qui ont donné loisir à des personnes de réfléchir. Donc beaucoup de systèmes compliqués, certains complètement aberrants et farfelus d'ailleurs. Mais le Bouddha, sa quête, dans le fond, elle est extrêmement existentielle. C'est la condition humaine, qu'est-ce qu'on peut en dire, qu'est-ce qu'elle est, est-ce qu'on peut la dépasser. Il n'a pas été attiré par les spéculations des Védas. Les Védas, c'est des textes immenses, complexes, avec des rituels, etc. Ceci ne l'a pas intéressé. Ce qui l'a vraiment intéressé, c'est quelque chose de très terre-à-terre. Dans le fond, la condition humaine, qu'est-ce que c'est que cette condition humaine? Et est-ce que c'est la situation dans laquelle on se trouve, notamment cette situation d'insatisfaction, est-ce que c'est le fin mot de l'histoire ou est-ce qu'il y a, dans le fond, autre chose? Est-ce que cette situation est dépassable ou pas? On revient donc, est-ce que la souffrance est inhérente à la condition humaine ou pas? Si elle est inhérente, voilà, c'est le fin mot de l'histoire. Si elle n'est pas inhérente, si elle est due à la confusion, par exemple, à ce moment-là, elle peut être dépassée, donc il y a quelque chose à faire. Donc à ce moment-là, on peut s'engager dans un chemin spirituel. Elle est à connaître, parce qu'en général, on essaie plutôt de l'éviter. On voit bien dans la spéculation des Védas, ou beaucoup de théories au temps du Bouddha, eh bien, on est mieux rêver à autre chose, rêver à ce qui vient après la mort, une sorte de paradis, enfin, toutes les belles choses qu'on pourrait imaginer, plutôt que de voir la réalité de la condition humaine. Manière d'éviter, j'ai évoqué cet exemple d'une personne qui peut-être se sent pas bien, elle dit « je vais pas aller voir le médecin parce qu'il va me trouver une maladie ». Voilà. On pourrait dire que ben voilà, le Bouddha il dit ben, que si il vaudrait mieux voir cette situation parce qu'il y a une guérison possible, non pas parce que voilà, on va tout d'un coup avoir ce diagnostic qui ne serait pas dépassable, mais pourquoi ça vaut la peine de voir la souffrance? Parce que c'est dans la connaissance même claire de la souffrance qu'on va pouvoir la dépasser. Pas en la fuyant, en l'évitant, mais en la connaissant pour ce qu'elle est. Pourquoi ceci? Parce que quand on la connaîtra pour ce qu'elle est, on va se rendre compte que justement, elle n'est pas inhérente à la condition humaine. Mais quand on l'évite constamment, rêvant à d'autres choses, maintenant on a des moyens d'évitement tellement sophistiqués, c'est extraordinaire. À ce moment-là, quand on l'évite, on ne peut pas la connaître profondément et on ne peut pas la dépasser. On reste constamment sous l'emprise de cette insatisfaction parce qu'on ne l'a pas comprise. Quelque chose qui reste là, qu'on tient à distance. Et d'une certaine manière, on s'engage dans un chemin spirituel, peut-être motivé par ceci. On a envie d'éviter la souffrance, hein, ces situations limitées et autres. Je ferais mieux de faire de la méditation. Donc la motivation peut bien être dans l'engagement dans un chemin spirituel, peut bien être le fait de vouloir éviter la souffrance dans un premier temps. On comprend bien, c'est normal, j'ai des difficultés, je vais les méditer, voilà, comme ça mes difficultés, soit je vais les résoudre, soit je vais accéder à d'autres choses, je vais accéder à la sérénité, au calme, à la tranquillité, je ne vais plus m'embêter avec toutes ces choses de la vie quotidienne. Donc on comprend bien ceci, les systèmes encore qui permettent un évitement plus coloré ou plus efficace. Voilà, on peut penser à des choses merveilleuses. Et qu'est-ce qu'on entend en s'engageant dans le chemin spirituel du bouddhisme où le Bouddha a dit, ben voilà, la première vérité, c'est celle de la souffrance. Donc là, il nous fait un peu déplaner en disant, ben voilà, vous êtes ici, prenez conscience de où vous êtes, quelle est votre situation, parce que c'est de là qu'on part et c'est ce qui nous interroge et c'est ce qui nous concerne. C'est ce dont il s'agit de nous-mêmes, dans notre conditionnement, dans nos limites, d'en prendre conscience totalement, de toucher ceci pour pouvoir le dépasser, et non pas de l'éviter. On n'est pas dans un évitement, on est au contraire dans une connaissance profonde de notre situation. Alors, tout d'abord, ça peut paraître pessimiste. Le bouddhisme a été taxé de pessimisme pendant bien longtemps, mais même encore à l'heure actuelle. Évidemment, quand le Bouddha commence à dire la première vérité, c'est celle de la souffrance, voilà, j'imagine maintenant sur les, je sais pas, réseaux sociaux, il n'y aurait plus personne qui suivrait ses tweets, je ne sais pas, voilà, on commence comme ça, ce n'est pas vraiment un bon début, quoi, allons voir ailleurs. Donc il commence par quelque chose qui nous remet devant notre propre situation, comme quelque chose de... Mais qui n'est pas la fin du chemin, qui est au contraire le début, ce qui va permettre un approfondissement. C'est en connaissant la souffrance profondément qu'on va se rendre compte qu'elle n'est pas inhérente à la condition humaine, qu'on va se rendre compte d'une chose extrêmement importante, dans le fond, c'est quelle est la part de notre responsabilité dans la douleur, l'insatisfaction que nous éprouvons. Et ce terme de responsabilité est très important, même si ce n'est pas un terme qu'on trouve dans les textes classiques, je ne sais pas, ni en tibétain ni en pali, comment on dirait responsabilité, mais c'est quand même ce qui est exprimé. Vous voyez, si la souffrance, la condition humaine, la douleur ou ma douleur, elle ne dépend pas de moi, mais elle dépend de quelque chose d'autre, donc je n'ai pas les clés de ma liberté. La solution se trouve dans ce qui est responsable de ma douleur. Donc on est devant une question aussi qui est très importante. Pourquoi est-ce qu'il y a de la douleur? Pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce qu'il y a de l'insatisfaction? Donc se demander c'est d'où elle vient, pourquoi cette situation? Et si on ne prend pas la responsabilité de ceci, ça vient d'ailleurs. À ce moment-là, il n'y a aucune possibilité de dépasser cette situation d'insatisfaction. Ça dépend d'autre chose. Je voudrais évoquer une réflexion à ce propos qu'on trouve, parce qu'évidemment, c'est le pourquoi de la souffrance. Il n'y a pas que les bouddhistes qui se sont posés cette question. C'est une question importante qu'on se pose de mille manières avec des réponses assez étonnante. Il y a ce récit dans l'abîme qui est complètement étonnant et surprenant, qui est le récit de Job. Ce type qui a tout, il est riche, il a des enfants, il a tout ce qu'il faut, etc. Et finalement, je ne dirais pas Dieu par un pari, mais enfin quand même, Satan vient lui dire, voilà, il t'aime bien, il a une grande foi en toi, mais enfin c'est normal, tout va bien pour lui, il est riche, etc. Qui ne louerait pas Dieu dans une situation aussi bonne? Mais attends que les choses changent, s'il devait perdre tout ceci, est-ce qu'il aurait encore des louanges pour son créateur? Alors Dieu lui enlève tout, les enfants, toute sa possession, il n'a plus rien, le pauvre. Mais bon, voilà, il dit, voilà, Dieu me l'a donné, Dieu me l'a repris. Enfin, mais bon, alors, Dieu, il augmente la dose, il le rend malade, il lui enlève la santé. Enfin, vraiment, il est dans une situation très difficile. À ce moment-là, il n'en peut plus. Et puis, il maudit Dieu, etc. Il maudit cette situation dans laquelle il est. Et ses amis viennent le voir et lui disent... Mais dans le fond, si tu es dans cette situation, tu as tout perdu, même ta santé, c'est parce que tu as du péché, repens-toi. Ils sont plusieurs, ils viennent pour le conforter, lui dire, repens-toi, tu es responsable de ceci, c'est que tu as fait des fautes. Et Job ne veut pas entendre ça, Job ne veut pas entendre ça, il continue à maudire Dieu. Parce qu'il pense que Dieu est responsable, dans le sens de ce qui est insondable. Qu'est-ce qu'il dit là, dans le fond? Il dit simplement, non, on ne peut pas dire que toute la situation qu'une personne subit, elle est simplement le fait d'une sorte de causalité. On n'est pas complètement pris dans une sorte de causalité où tout ce qui surgit est fait de causes et conditions qui seraient ici. Conditions parce qu'il aurait péché, donc il aurait bien mérité finalement ces conséquences. Vous voyez, quand ses amis lui disent ça, il dit on est dans une sorte de causalité, une causalité morale, etc. Tu n'as rien à faire là-dedans, dans le fond, tu as péché, donc tu es puni. Et lui, il s'oppose à ceci. Parce qu'il dit, il n'y a pas de c'est insondable la raison des malheurs. Dans la tradition bouddhique, on a une explication qui est celle du karma, qui tend aussi à vouloir justifier, un peu comme ses bons amis de Job qui viennent dire, ben voilà, si tu fais l'épreuve de difficulté, c'est dans le fond parce que tu as fait des choses mauvaises dans le passé. C'est tellement à la mode maintenant que voilà, dans les séries policières, c'est son karma, même des journalistes, c'est son karma, on a vraiment l'impression que ça devient un petit peu à n'importe quelle sauce, dans un sens d'ailleurs qui n'est pas le sens du bouddhisme, dans un sens de fatalité, c'est son karma. Voilà, c'est son destin. Mais cette réflexion-là, elle tend aussi, cet excès d'ailleurs dans cette vision du karma, elle tend aussi à vouloir trouver une justification à toute difficulté. C'est parce que j'ai dû faire quelque chose de mal dans le passé que finalement, voilà, je dois faire face à cette situation avec des choses absurdes. On arrive à des choses... dramatique, cette manière de penser. Je ne sais pas si des parents mettent au monde un enfant qui a des problèmes, eh bien voilà, c'est leur karma, le karma de l'enfant, le karma des parents. C'est dramatique, une manière de penser comme ceci. Tout d'un coup, on leur dit, bah, c'est votre faute, quoi. Pas dans cette vie-là, mais dans une autre, de toute façon. De la même manière, dans les catastrophes naturelles, cette manière de penser, voilà, ces gens-là l'ont mérité. Le tsunami, pour les Sri Lankais, c'est certainement qu'ils avaient fait des fautes. Vous voyez, c'est ajouter de la souffrance aux difficultés des gens. On en rajoute, quoi. Bah, vous l'avez bien mérité. Donc le karma, de cette manière-là, c'est une... mal compris, hein, ou compris parfois de cette manière-là, c'est une manière de vouloir trouver nécessairement une sorte de causalité, on verra ce qui est entendu par là, une causalité aux difficultés qu'on éprouve à l'heure actuelle. Je me souviens d'une amie à New York, qui est d'ailleurs décédée du cancer, mais quand on a découvert son cancer, tous les gens lui ont demandé, mais enfin, qu'est-ce qu'elle a dû faire? Qu'est-ce que tu as fait pour... Voilà, elle était responsable de son cancer. C'est un peu à la mode, voilà. Qu'est-ce que vous avez fait? Comme si c'est dans une sorte d'illusion qu'on maîtriserait tout. Faites pas d'erreur, mangez exactement ce qu'il faut. Attention, vous ne pouvez pas manger ça. C'est pas exactement, parce qu'il y a beaucoup d'avis différents. Ben, si vous faites attention, vous mangez exactement ce qu'il faut, etc. Pas trop stressé, vous allez pouvoir vous en tirer. Freud, il avait une remarque extraordinaire. Il disait, quand une personne meurt, on a toujours l'impression qu'elle a réussi un tour de magie. C'est parce que c'est pas, c'est comme si c'était quelque chose qui n'était pas possible, qui avait surgi. Où on cherche un responsable, c'est à cause de ceci ou de cela. Dans la mort du Bouddha, déjà ça surgit, on accuse Ananda de ne pas être intervenu pour que le Bouddha puisse vivre plus longtemps. Parce que, dit que le Bouddha aurait pu prolonger sa vie de, je ne sais pas, de quelques éons, ce qui veut dire des milliers d'années, donc on pourrait aller lui serrer la main maintenant. Mais bon, et quand il a évoqué ceci, Ananda n'a pas réagi en disant au Bouddha, je vous en prie, restez encore un petit peu. Bien voilà, finalement le Bouddha, il a dû mourir. Donc là, on dit, voilà, Ananda, il est responsable, ce n'est pas le Bouddha, lui, c'est Ananda. Et cette manière, on la trouve encore exprimée à l'heure actuelle. Je me souviens, un maître tibétain avec lequel j'avais étudié et décédé, bon, on a accusé son attendant de ne pas s'être bien occupé de lui. Il avait un diabète, il n'était pas en très bonne santé, mais voilà, c'était la faute de son attendant qui s'était mal occupé de lui. Un autre de mes maîtres qui est décédé, c'est aussi son servant qui était responsable parce qu'il n'avait pas bien pris soin de lui. Vous voyez, ces maîtres, ce n'est pas possible qu'ils meurent naturellement, il faut bien qu'il y ait un responsable. Ce n'est pas eux, ils sont tellement parfaits. C'est extraordinaire. Depuis le Bouddha, on a ceci et on a cette tendance à se dire, tiens, dans le fond. Ils sont trop extraordinaires pour avoir fait une faute, donc il faut qu'il y ait une sorte de faille qui vient en responsable et pas quelque chose de naturel. Parce qu'évidemment, le problème du pourquoi de la souffrance est quelque chose d'intéressant, c'est bien ce à quoi nous invite le Bouddha à réfléchir. Si on revient sur cette notion du karma, d'ailleurs, dans les sutras où le Bouddha exprime ceci très clairement, il dit qu'il y a, hein, il y a des religieux qui prétendent que tout ce qui surgit, tout ce qui arrive à une personne dépend de ses actions passées. Tout ce qui arrive dépend du karma. Et il dit, ceci est faux, ceci est erroné, il y a d'autres causes à la souffrance, et il y a les désordres organiques. Vous voyez, ça, c'est pas le karma, c'est les désordres organiques qui viennent dans des équilibres de la bile, du souffle, enfin, selon la médecine au temps du Bouddha. Il donne ici des raisons organiques, pas le karma. Il y a les circonstances extérieures, les intempéries, les changements de saison, les accidents. Donc, le karma est une cause parmi 8 autres causes. Donc, pas du tout. La seule cause, et quand on voit les désordres intérieurs dus au déséquilibre de la bile, etc., de l'élément air, donc on se rend bien compte que ceci ne dépend pas d'actions passées. Mais lorsque nous voulons à tout prix trouver une sorte de raison, hein, à toute souffrance, on est quand même dans une sorte d'illusion de croire qu'on pourrait tout contrôler. Alors tout d'un coup, il y a une sorte d'angoisse qui vient parce que tout n'est pas contrôlable. Ses amis, mon ami qui est décédé du cancer à New York, disaient, mais qu'est-ce qu'elle a bien dû faire pour se faire un cancer? C'est une manière de se protéger, de dire, ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Moi, je ne vais pas faire cette bêtise. Hein. Vous voyez, de croire qu'on aurait un contrôle alors que finalement, il y a beaucoup d'autres conditions, c'est des circonstances extérieures. Si j'imagine que voilà, j'attrape une hépatite dans un endroit parce que j'ai bu de l'eau ou j'ai pris un verre qui n'était pas complètement propre. Alors on a une petite causalité, bon voilà, on a un virus qui est là, mais dans le fond, pourquoi moi ce verre à cet instant, etc. Alors ça, évidemment, il n'y a pas de raison, c'est pas parce que j'avais filé une hépatite à quelqu'un dans une autre vie. Donc il y a là quelque chose qui n'est pas maîtrisable, qui n'est pas contrôlable. On est dans une situation, parce qu'on a un corps humain, etc., qui fait que, voilà, ce corps humain, il est par nature, vieilli évidemment, et puis il est fragile, il est vulnérable à des toutes petites bêtes, à des tout petits organismes, et c'est dans la nature du corps humain. Donc, dans quelle mesure est-ce qu'on a notre responsabilité? C'est une question de responsabilité dans la souffrance, qui est le deuxième aspect de cette vérité, qui est l'origine de la souffrance. Donc, non pas à l'origine dans le sens où c'est parce qu'on aurait péché, pour prendre un terme chrétien, mais parce qu'on aurait fait un mauvais karma qu'on devrait subir des difficultés. C'est pas dans ce sens-là qu'il y a une responsabilité. Parce qu'à ce moment-là, on est mal embarqué, puisque paraît-il qu'on a d'innombrables vies antérieures, donc on en a fait des choses dans ces innombrables vies antérieures, on n'est pas prêt d'avoir éliminé toutes les conséquences qu'on devrait subir. Donc ce n'est pas du tout à ce niveau-là que ça se passe. Ce n'est pas la libération de la souffrance qu'a le Bouddha en vue. Ce n'est pas le fait qu'on ne va plus être malade, on ne va plus avoir de problème, tous nos proches, etc., ils vont être en parfaite santé. Voilà, on ne sait pas qui va mourir d'abord parce qu'il y a quand même un peu de souffrance là. Ce n'est pas ça la fin de la souffrance. Fin de la souffrance, c'est la fin de la confusion qui fait que la situation est éprouvée comme douloureuse. C'est ça l'origine de la souffrance pour le Bouddha. Ce n'est pas une causalité qui fait qu'on passerait entre les gouttes de toute difficulté, c'est la manière dont on se situe dans une difficulté. Et la responsabilité, ou ce qui est entre nos mains, c'est cette capacité à percevoir la situation pour ce qu'elle est dans la réalité, et non pas être sous l'emprise de la confusion. C'est la confusion qui est, je l'ai mentionné hier, c'est la confusion qui est la source de la souffrance, pas la situation. On a des exemples évidemment innombrables dans la vie, où il y a des gens qui font face à des difficultés, qui restent sereins, qui peuvent très bien s'en tirer, et d'autres, ils ont la moindre petite tuile, c'est la catastrophe, tout est fini. On se rend bien compte qu'il n'y a pas... que ce qui manque dans cette capacité-là, c'est une qualité intérieure, et ce n'est pas les circonstances extérieures qui le déterminent. Donc la responsabilité, elle n'est pas dans le fait de changer cette réalité quotidienne, mais dans le fait de ne pas être confus par rapport à la réalité. Nous ne sommes pas conditionnés par la réalité, par notre confusion par rapport à la réalité. Donc notre responsabilité, elle n'est pas dans le fait de pouvoir changer la réalité en évitant les difficultés, elle est dans le fait de pouvoir changer la perception de la réalité, qui fait qu'à ce moment-là, ça ne sera plus éprouvé comme difficulté. Se rendre compte comment on peut s'attacher à des événements qui se sont passés dans le passé, qui se sont terminés et qui nous font encore souffrir. On se fait souffrir par des choses qui n'existent plus. Donc si on veut le poids du passé, bon, c'est quelque chose d'assez complexe, on peut aborder de différentes manières, mais un des poids du passé, c'est le fait, dans le fond, qu'on empêche le passé de se terminer. Il s'est terminé, mais on l'empêche dans notre propre esprit de se terminer. Alors ceci, évidemment, peut être un poids immense, une source de souffrance immense. Je peux prendre un exemple. Si quelqu'un a fait quelque chose de mal envers moi, voilà, peut-être il y a 10 ans, peut-être il y a 20 ans, il se peut que je lui en veuille encore, 20 ans après. Ça fait 20 ans que cette personne me torture par ce qu'il m'a fait. Peut-être que la personne n'est plus là d'ailleurs, mais elle continue à me torturer. Évidemment, elle n'a aucun pouvoir. Je continue à me torturer par ce qu'elle a fait. Alors que c'est peut-être terminé, les conséquences, il n'y en a même peut-être plus. Mais quand même, c'est dégueulasse. Vous voyez, donc je ne laisse pas ce passé se terminer. C'est terminé, ça n'existe plus. Même, si je prends l'exemple, même la personne n'existe plus, ça n'existe plus. Et pourtant, je continue à me torturer par ceci. Je garde ce passé présent, dans ma mémoire évidemment, et je ne le laisse pas se terminer. C'est une, évidemment une sorte de négation de l'impermanence manifeste. Garder dans la durée, ici dans quelque chose que j'aurais eu à subir, mais il se peut aussi que j'ai fait quelque chose de mal il y a très longtemps. Et je peux aussi me torturer avec ceci. Oh, quand même, j'aurais pas dû faire ceci. Combien de personnes peuvent porter le fardeau toute leur vie d'une mauvaise action? Évidemment, si on a fait quelque chose de mal, peut-être qu'on peut réparer, mais si on le répare, en général, il y a pas, on ne le transporte plus, on a fait une faute, on la répare, et puis voilà. Mais évidemment, on ne peut pas toujours réparer les fautes, pas si simple que ceci. N'empêche que ceci, c'est aussi terminé, une action terminée, dans la mesure où on a fait ce qu'on pouvait par rapport à une situation qu'on regrette, ensuite, de la transporter constamment avec soi, de ne pas la laisser se terminer. Elle est terminée, cette action. À nouveau, il y a 20 ans ou il y a une année, peu importe. Elle est terminée, je ne la laisse pas se terminer. Je la garde présente, c'est comme si j'étais encore, à chaque instant, en train de faire cette mauvaise action. Je me torture en continuant à faire dans mon esprit ce que je regrette d'avoir fait. Je ne laisse pas ce passé se terminer. On voit la confusion par rapport à l'impermanence dont on parlera cet après-midi. N'existe d'un bloc. Pendant ces 20 années, j'existe d'un bloc, cette personne qui a fait ceci. Dans la durée. Voilà. C'est pour ça que j'ai évoqué l'assise ce matin. C'est le même type de confusion. On vient, on s'assied, on a l'impression que cette assise est là pendant toute la durée de l'assise, une demi-heure, 45 minutes, mais elle n'est pas là. On ne peut pas, au deuxième instant de l'assise, éprouver le premier instant, au deuxième instant, éprouver le troisième instant. C'est quelque chose qui est là à chaque instant qui se déroule, qu'on ne peut pas garder. On ne peut jamais s'asseoir pendant 45 minutes, 30 minutes ou même une minute. Et cette confusion qui fait qu'on croit qu'il y a cette durée, et la confusion par rapport justement à la non-perception de l'impermanence, et qui fait qu'à ce moment-là, cette confusion-là est source de beaucoup de douleur, de beaucoup de souffrance, de l'insatisfaction. Dans ce terme souffrance, qui est un terme qui se dit dukkha en pali, alors, souvent on dit oui, mais voilà, ça ne veut pas vraiment dire souffrance, c'est beaucoup plus riche que ceci, etc. Mais bon, je ne connais pas le pali, mais ou très peu, mais il me semble que ce terme veut exactement dire souffrance. On a dukkha, puis on a sukha. Donc, on a vraiment comme si on avait bonheur et malheur. Donc le terme, en pali certainement veut dire douleur, même si on donne un sens plus vaste. C'est normal, on peut prendre un terme et lui donner un sens plus vaste. Mais dans ce terme, dans ce qui est inclus dans la souffrance, il n'y a pas seulement la maladie, la vieillesse et la mort. Et il y a divers éléments. Et notamment ce que nous pensons être le plaisir. Ce qui est le plaisir, quand ce plaisir, il est, comme je l'ai défini tout d'abord, ce qui est contaminé, quand les plaisirs sont vécus sous l'emprise de la confusion, ils sont eux-mêmes insatisfaisants. Quand les plaisirs, tout ce qu'on peut éprouver d'agréable, quand ceci est éprouvé ou vécu sous l'emprise de la confusion, c'est soi-même insatisfaisant. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ce qu'on estime comme étant agréable, plaisant, si c'est sous l'emprise de la confusion, ça fait partie de la vérité de la souffrance. Parce que c'est conditionnant, parce que ça perpétue la confusion, donc la limitation. Donc on a ici quelque chose d'important qui se joue. D'abord parce que quand on essaye de nous vendre la méditation comme moyen d'être plus heureux, etc., on se rend compte que c'est quand même assez bizarre dans la tradition bouddhique. C'est tellement pas en accord avec les enseignements du Bouddha à tous les niveaux, dès le début. Ce n'est pas du tout ce qui est visé, ce bonheur qu'on essaie de promouvoir, il ferait partie de la vérité de la souffrance. D'abord parce que ça change, c'est pas quelque chose de fiable, ces plaisirs qu'on peut avoir sont extrêmement fragiles, dépendent de situation, et aussi parce que la manière de l'éprouver, de les éprouver, renforce le sentiment d'un moi qui existerait de manière indépendante, et que l'expérience elle-même de ce plaisir, de ce qui est agréable, lorsqu'elle est saisie par la notion du moi, est quelque chose de très limité. Même si on imagine que c'est quand même agréable, on ne dit pas que c'est désagréable, mais c'est extrêmement limité. On pourrait imaginer une même expérience agréable, très agréable, la même expérience éprouvée sous l'emprise de la confusion ou sans confusion. Et ceci est complètement différent. Il y a dans cette même expérience agréable éprouvée sans confusion le fait de ne pas être limité et le fait qu'à ce moment-là, le vécu ne dépend pas de ses conditions agréables. Je vais préciser un peu ceci. Lorsqu'il n'y a pas de confusion par rapport à un vécu présent, il y a une sérénité, une liberté qui n'est pas dépendante des conditions, c'est-à-dire qui n'est pas dépendante du fait que cette situation apparaisse comme agréable. Oui, c'est agréable, voilà. Et alors, la liberté qui accompagne ceci est beaucoup plus profonde, beaucoup plus vaste. Et ceci fait que si cette expérience agréable devenait désagréable, il y avait autre chose qui surgisse qui est désagréable, de la même manière, ceci ne se transformerait pas en souffrance, parce que comme il n'y a pas de confusion, et alors il y a quelque chose de désagréable, et alors ça n'atteint pas la liberté et la sérénité. Liberté et sérénité, à ce moment-là, ne dépendront pas des circonstances, des expériences qui, elles, sont éphémères et dépendent de tellement de choses, dépendent de choses qui ne dépendent pas toutes de nous. Donc ce qui va faire ici que quelque chose est ultimement dans la vérité de la souffrance, c'est la manière dont ceci est vécu, la confusion dans laquelle quelque chose est vécu, et non pas l'aspect même de l'expérience. peux imaginer dans le chemin de la méditation, quelquefois, des expériences agréables, même avec des développements de la concentration, des expériences extrêmement agréables, des béatitudes et autres qui sont incomparables. Mais si c'est vécu sous l'emprise de la confusion, relié à un moi, etc., indépendant, eh bien ceci ne va pas du tout dans le sens de la liberté, et ceci est dans la vérité de la souffrance. Alors on peut se dire, ben zut quand même, parce que alors même ces trucs super, si c'est mis dans la vérité de la souffrance, c'est pas de chance. Mais attention, il y a l'autre aspect, c'est que des expériences difficiles, douloureuses, corporellement, émotionnellement, etc., lorsqu'elles sont éprouvées sans que ce soit sous l'emprise de la confusion, alors elles sont éprouvées en parfaite sérénité et liberté. Mais on croit quelquefois dans la méditation qu'on peut très bien s'attacher à ce qui est de l'ordre très agréable. Quand c'est désagréable, on essaie de ne pas s'y attacher. Mais quand c'est agréable, là, on ne questionne pas beaucoup. Oh, c'était super ma méditation, etc. Calme et tranquille. Mais c'est très important à ce moment-là, très important quand il y a des expériences de calme, de tranquillité, aussi d'être attentif pour ne pas s'y identifier. Parce qu'évidemment, on a l'esprit plus disponible à ce moment-là, on n'est pas dans des grandes difficultés, et de découvrir la liberté qu'il peut y avoir lorsqu'on est libre de confusion dans ceci. Explorer cet aspect de la liberté dans ce contexte-là. Donc cette notion de souffrance n'est pas quelque chose de pessimiste, pas du tout. Au contraire, il y a une sorte d'ambition extraordinaire, un optimiste fantastique qui dit que cette condition humaine qui semble limitée, insatisfaisante, elle est dépassable et on peut la vivre en totale liberté et sérénité, quelles que soient les circonstances de la vie, qu'on n'est pas dépendant d'elle. Voilà donc ces réflexions sur la souffrance en tant que caractéristique passagère ou en tant que première des quatre nobles vérités.